France Culture.
Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Nadia Boulanger n'a pas seulement un talent musical exceptionnel, ni seulement une pédagogie personnelle bien singulière, qui l'a aidée à former certains des compositeurs les plus brillants du XXe siècle. Elle est aussi une figure des cercles mondains, où intellectuels, musiciens et compositeurs se fréquentent, notamment dans les salons parisiens, souvent mis en place par de riches mécènes. Celui, par exemple, de l'américaine Winnaretta Singer, dit la princesse de Polignac, dans son hôtel particulier rue Henri Martin à Paris, ou encore dans son palais viennois. Ce sont des lieux d'échange où tous se rencontrent. C'est ainsi que se fait également la renommée de Nadia Boulanger, qui a connu quasiment tous les compositeurs et musiciens de renom de cette première moitié du XXe siècle. Ce 12e entretien avec la professeure et compositrice au micro de Bruno Mont-Saint-Jean, enregistré en 1976, prend ainsi la forme d'une galerie de portraits, où l'on retrouve par exemple le compositeur espagnol Manuel de Falla, ou encore son élève, encore jeune prodige à l'époque, le pianiste et compositeur Émile Naoumoff. On l'entend également révéler l'ambition principale de l'éducation qu'elle dispense. Une rigueur stricte, des bases techniques entièrement maîtrisées pour permettre une liberté totale dans la composition. Entre intransigeance et fantaisie donc, entre rigorisme et originalité, tout de suite, le 12e entretien avec Nadia Boulanger, diffusé pour la première fois le 15 août 1978.
Entretien avec Nadia Boulanger, une émission de Bruno Mont-Saint-Jean.
À celle qu'entre deux guerres, Paul Valéry m'adressait un jour avec ces simples mots, « Elle est la musique en personne. » Saint John Perse.
Le jour du premier concert de Menuhin, nous sommes à l'opéra. Le petit joue Bach, Beethoven, Brahms, enfin Brahms, Beethoven. Et nous sortons tous bouleversés. Mais bouleversés, je ne peux pas dire à quel degré. Et je rencontre deux de mes élèves, un petit jeune homme, une petite jeune fille, et Manuel de Falla. Oh, je dis, mon cher, soyez gentil. Venez avec nous pour 10 minutes au Café de la Paix, parce que mes élèves rêvent de vous être présentés. Mais je ne peux pas, je suis malade. J'ai promis d'aller me coucher. J'ai écouté 10 minutes de plus ne peuvent rien changer à votre santé. Venez pour 10 minutes. Il vient, il fait une conversation éblouissante pour charmer les deux petits qui, à eux deux, n'avaient pas son âge. Et alors, il raconte des tas de choses qu'il est tellement bouleversé par le génie de ce petit Menuhin. Et puis, il s'arrête. Il dit, mais il y a quelque chose qui m'étonne encore plus que l'enfant prodige, c'est le vieillard prodige. Verdi, écrivant face à 80 ans, m'étonne encore plus que Mozart, écrivant à 20 ans ses chefs-d'œuvre.
C'est la gente grande.
J'entends encore cette voix si timide et si assurée, car quelle que soit sa réserve, oui, sa timidité, sa parole représentait une certitude.
Fayal, lui, avait été... il ne vivait pas à Paris, pourtant.
Non, mais il était... Bon, je ne suis pas assez lié avec lui pour savoir combien de temps il restait à Paris pour retourner en Espagne. Ça, je ne peux pas vous dire. Mais sa maison à Grenade est une maison très, très, très modeste, avec une vue somptueuse, des kilomètres sans fin, d'une maison où il y a... Enfin, ça n'est pas même pas de luxe. C'est presque une image de la pauvreté, de la sobriété, de l'ascétisme. Mmh. Qui correspond à ce qu'était sa vie intérieure, mais avec cette vue, on peut pas décrire. Puis il était à Paris, on le voyait souvent, mais je ne peux pas m'honorer d'avoir été de ses intimes, ça n'est pas exact. Je l'ai beaucoup admiré, je l'ai bien connu, mais Roland Manuel était un ami intime à lui. Et avait des souvenirs extraordinaires. Il avait notamment une photographie où Fayal apparaît comme le crâne d'un moine bénédictin des âges anciens. Une photo extraordinaire avec cette forme de tête si particulière qui elle-même est sculpturale et rigoureuse.
Et vous croyez que ça reflète bien ce qu'est l'atmosphère spirituelle de sa musique ?
Ah, sans aucun doute. Mais enfin, ça d'ailleurs, c'est tout à fait un hasard. Parce que vous pourriez avoir un physique et penser autre chose. Ça, je crois qu'il ne faut pas trop vouloir associer combien de kilos vous pesez et combien de pensées vous promenez. Je crois que c'est autre chose.
Il avait été commandité par les Polignac pour une œuvre, je crois, importante.
Oui, oui, le maître Pierre de...
Le rétable de maître Pierre.
Le fait, ça.
Thank you. la princesse de Polignac, partout où elle arrivait, on traduisait du grec, on traduisait du latin, on faisait de la musique. Mais elle arrivait à Londres, une heure après, on était en train de faire de la musique ou de lire des poèmes. Elle n'était pas influençable ni influencée. Elle choisissait ce qu'elle voulait, on lui parlait de quelqu'un. Elle disait, je vais voir, je vais voir. Mais pas influençable. Et elle a commandé des tas d'œuvres. Elle a laissé tous ses manuscrits aux gens de Polignac. Je ne sais pas ce que va faire Louis, mais c'est fantastique. Parce que de Forêt avec les mélodies de Nice, jusqu'à Jean Français, Markiewicz, tout a été commandé par elle. Un beau jour, son maître d'hôtel est venu. Madame la princesse, on apporte 4 pianos. 10h du soir, elle aimait se coucher de bonne heure. Alors elle met un peignoir, elle s'habille, on venait jouer la première audition de noces. Et combien de soirées nous avons tous y assisté, vous coopérez beaucoup.
C'était une des dernières grandes mécènes ou
qu'est-ce... Ah ben c'est le type même de la mécène. Elle adorait la musique, elle adorait la peinture. Et alors c'est chez elle qu'un jour les architectes, les décorateurs discutaient. Et le prince, que je n'ai pas connu, mais qui a dû être un personnage extrêmement attachant, arrive et dit, mais monsieur, qu'est-ce que c'est que cette discussion? Nous avons tout essayé, nous avons essayé sur ce mur de mettre de la peinture, de mettre une sculpture, de mettre une tapisserie, nous n'avons rien trouvé qui allait bien. Et en clignant des yeux, il a regardé le mur, il a dit, et pourquoi pas rien? Et on n'a rien mis sur ce mur et c'était parfaitement bien. Et elle parlait de lui si volontiers que moi j'ai l'impression que s'il entrait aujourd'hui, je ne serais pas étonné. Je me dirais, ah ben enfin, voilà qui est de retour.
Thank you.
S'intéressait réellement à la beauté, elle suscitait. Elle entendait parler de quelqu'un, elle le faisait venir. Elle entendait parler d'une œuvre, elle écoutait, elle commandait.
Il y a eu beaucoup d'œuvres majeures du siècle.
Oh ben écoutez, Stravinsky, Jean Français, Fauré, et comme ça, Falla.
Et où étaient jouées ces œuvres alors normalement ?
Chez elle, avenue Henri-Martin. Dans l'hôtel qui est aujourd'hui l'hôtel de la Fondation Saint-Gilles-Polignac. Nous avons donné là la résurrection de Schütz, la fille de Jephté, de Carissimi, des œuvres de Jean Français faites pour elle, beaucoup de Monteverdi. J'ai profité d'interprètes exceptionnels et je n'y suis pour rien quand les deux voix de Dorène et de Queneau s'unissaient d'une manière si extraordinaire. Quand l'art d'une telle grâce, d'une telle poésie, de Marie-Blanche de Polignac, amateur, et oui, c'est vrai, amateur, c'est-à-dire, dans le vrai sens du mot amateur, adorant la musique, jusqu'à un degré qui rendait inévitable pour elle de participer à la musique, publiquement ou pas publiquement, elle ne se souciait pas de ça. On faisait de la musique avec elle et c'était une joie extraordinaire. Alors, naturellement, quand Donna Conrad était là, ils étaient des gens de premier ordre.
Disons que Monteverdi, à l'époque, n'était tout simplement pas joué.
Oh, si, il ne faut pas exagérer les découvertes. Moi, je veux bien avoir découvert Monteverdi, mais c'est s'approprier un bien qui ne m'appartient pas. Parce que Vincent d'Indy et Charles Borde avaient fait un travail extraordinaire, avec une erreur, je me permets de le penser, et puisque nous parlons de ça, de le dire, ils l'avaient traduit en français. Et vous ne pouvez pas chanter Monteverdi en français, pas plus que vous ne pouvez chanter Purcell en français, pas plus que vous ne pouvez chanter Boris Godounov en français.
Mmh. On chantait d'après des éditions établies par Vincent d'Indy, qui étaient quand même des éditions qui tenaient beaucoup compte de la mode, de la fin du siècle dernier ou début du siècle, non ?
Je trouve qu'on exagère un peu. N'est-ce pas ? C'est préparé à ce moment-là la grandissime édition de Malipiero. Mmh. Et avec tout le respect, toute l'affection que j'avais pour lui, pour cet homme si vraiment musicien, si spirituel, si vivant, je regrette qu'il ait été aussi discret. Alors, au lieu d'en rajouter, il s'est abstenu. Et peut-être que ses réalisations, parfois, restent un peu trop dans l'ombre. Néanmoins, il a fait cette monumentale édition, et on lui doit beaucoup. Et puis Monteverdi était là dans l'ombre, et puis il attendait son jour, et son jour est venu.
Enfin, disons que vous avez quand même participé.
Oui, j'ai coopéré à ça, dans ma mesure.
C'était le premier disque, quand même, qui était fait de Monteverdi.
Ça, je ne sais absolument pas.
Quelle était quand même l'atmosphère de l'époque qui a fait qu'on a cru quand même que Monteverdi était quelque chose d'affolant ? On le comprenait mal. On a trouvé qu'il avait des audaces.
Vous savez, c'est un hasard heureux. Nous faisions de la musique. Ce groupe, Marie-Blanche de Polignac, Queneau, de Rennes, Conrad, enfin, dites-en, Mademoiselle Vent. Tout un groupe de musiciens. Et comment ? Est-ce que c'est moi qui ai eu l'idée de faire un disque Monteverdi? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Est-ce la princesse Edmond qui avait toutes les curiosités de l'esprit? Vous m'en demandez plus que ma mémoire ne permet de vous dire. Moi, je sais qu'on a fait tout d'un coup ce disque. j'étais toujours un peu en marge. Parce que j'étais, comme enfant, un peu révolté contre tout ce qui était convenu. Mmh. Et que je voulais échapper à ça, alors que j'essayais de découvrir. J'avais en même temps une éducation classique, par les influences qui s'exerçaient autour de moi, mais le besoin de découvrir, je crois que le fait qu'on donne une éducation extrêmement stricte donne une liberté extraordinaire à celui qui en est l'objet. Il reçoit des principes qui le guideront toute sa vie, mais il cherchera toujours un moyen de s'échapper, d'aller autre part. Et j'espère que j'ai inspiré à mes élèves, là je coopère si vous voulez, le besoin de découvrir.
Mais où s'opère la sélection? Parce que j'imagine que si on vous disait aujourd'hui, voilà tel auteur italien du XVIIIe siècle qui s'appelle pas Corellini Torelli, mais qui s'appellerait Sorelli, est-ce que vous auriez la curiosité d'aller voir ce qu'il y a dans sa musique?
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, où je sais que le temps est mesuré, et j'ai tant de choses que j'aime, que je vénère, que je retourne, et je les vois d'un autre œil. Mais je sais que je ne peux pas ajouter sans cesse. Mmh. Il n'est pas possible. Il faut un temps d'assimilation, un temps de mémoire.
Toutes ces œuvres sont celles des choses extrêmement sérieuses, capables de préoccuper les plus grands d'entre nous pendant toute leur existence. Pas au-delà, à cause d'une impossibilité matérielle qui ne dépend pas d'eux, mais aussi vivement à leurs derniers jours, comme une chose dont l'importance n'a pas été diminuée par la fuite des années et qui, dans les quelques dernières années ou semaines qui restent à vivre, paraissent encore importantes et réelles. Étant à Amsterdam, à une exposition de Rembrandt, je vis entrer avec une vieille gouvernante un vieillard aux longs cheveux bouclés, à la démarche cassée, à l'œil terni. Il me semblait reconnaître sa figure. Tout d'un coup, quelqu'un près de moi dit son nom. Ruskin. Il était à ses derniers jours, et pourtant était venu d'Angleterre voir ses Rembrandt, qui déjà à 20 ans lui paraissaient une chose essentielle, et qui n'était pas pour lui une moindre réalité, arrivée à ses derniers jours. Il allait devant ses toiles, les regardant sans avoir l'air de les voir, tous ses gestes, par l'épuisement de la vieillesse, se référant à une de ses innombrables nécessités matérielles, besoin de soutenir sa canne, difficulté de tousser, de tourner la tête, qui emmaillote le vieillard, l'enfant, le malade, comme une momie. Mais à travers le lointain brumeux des années épaissies sur sa face obscure, sur ses yeux, au fond desquels, si loin maintenant, on ne pouvait plus apercevoir l'âme de Ruskin, la vie, on sentait que, le même, toujours, bien qu'indiscernable, il venait du fond des années, sur ses jambes cassées, mais qui étaient toujours les jambes de Ruskin, apporter à Rembrandt un hommage incomparable. Il est le même qui, jeune homme, allait voir Rembrandt, qui écrivit sur lui tant de pages ardentes, grimé comme un Rembrandt par l'ombre du crépuscule, par la patine du temps, par l'effacement des années, le même effort pour comprendre la beauté le conduisait encore. Il semblait tout d'un coup que les toiles de Rembrandt fussent devenues quelque chose de plus digne d'être visité, depuis que Ruskin, venu de si loin, était entré dans la salle. Il semblait aussi que c'était pour Rembrandt comme une récompense qui aurait pu lui être douce, et que si le regard de Rembrandt, qui semble nous considérer au fond de ses toiles achevées, avait pu voir Ruskin, le maître eût été à lui comme un souverain qui reconnaît un souverain dans la foule. Oui, l'étoile de Rembrandt nous semblait quelque chose de plus digne d'être admiré depuis que Ruskin était entré. Ou plutôt la peinture elle-même, en ce qu'elle a la possibilité de donner de meilleur, nous semblait quelque chose de plus essentiel depuis que nous voyons un si haut esprit, si près de la mort, la considérer encore à un moment où on ne donne pas tant à une jouissance même exquise, y venir encore, comme à une de ces réalités qui dominent la mort, si elle empêche pourtant d'y accéder ensuite. Rembrandt par Marcel Proust.
je ne peux que rester dans l'ombre du texte qui fait allusion à tout, à la communication entre vous et moi, entre la communication entre l'éternel et l'infime. Hier, j'avais la leçon du petit Nauma et il a déchiffré des pièces d'orgue de Buxtehude d'une telle manière que j'ai complètement oublié que j'étais en train de lui donner une leçon. J'écoutais du Buxtehude, compris jusqu'au plus profond de la compréhension musicale, et je serais resté toute la nuit pour entendre ce petit bonhomme qui comprend tout de suite, même quand il fait une faute. Peu importe, il fait une fausse note, ça peut arriver. Il a compris le sens de la note. Il y a la merveilleuse interview de Picasso, il y a 2 ans, je crois. Il explique, oui, alors vous ne travaillez pas beaucoup. Enfin, non, le matin, je m'occupe, je fais 2 ou 3 dessins. Oui, en définitive, vous cherchez. Ah non, je trouve. Alors, mon petit bulgare, il trouve. Il a fait son opéra bouffe avec son texte lui-même. On pourrait faire quelques critiques. Je suis très décidé à ne les pas faire, de façon à laisser se développer. Il a 14 ans, il a fini de l'écrire au mois de janvier, il n'en avait encore que 13. Je me dis, voyons, est-ce qu'il écrit de la musique influencée par Stravinsky? Non. Est-ce que c'est influencé par Bartok? Non. Est-ce que c'est influencé par Shostakovich? C'est un peu plus dans cette direction, mais pas semblant du tout. Eh bien, moi, je le laisse parler, et ce qu'il veut, quand il fait un doigt d'harmonie, je vais faire commencer 6 fois une correction jusqu'à ce que ce soit parfait du point de vue académique. Mm-hmm. Mais quand il compose, je veux qu'il soit absolument libre. Je connais le compositeur depuis, j'appelle ça une éternité, car il avait 13 ans quand il a écrit cet opéra. Il était déjà un vieil élève de la maison. Un matin, une dame a téléphoné. Oh, je n'ai pas le temps. Elle a un petit garçon, qu'elle vienne. Et j'ai donné rendez-vous. Et est arrivée une dame avec un charmant petit garçonnet, tout petit, il n'avait pas 9 ans. Son costume, sa petite cravate, tout ça dans un ordre parfait. Il dit, est-ce que tu me jouerais quelque chose du bas? Oui, oui, il se met au piano, joue très gentiment, et puis s'arrête. Je voudrais aussi vous avoir joué une de mes compositions. Des compositions qui n'avaient rien de monstrueux, une énergie incroyable, une autorité incroyable. Et ça a commencé comme ça, et puis il a commencé à aller un jour au marché aux oiseaux. Alors il a entendu un oiseau exotique chanter, il est rentré chez lui, il a écrit un morceau qui est charmant, qui est une vraie réussite et qui a de la personnalité. Et puis un jour, en livrant un grand secret, il m'a dit, j'ai composé un opéra bouffe. Je dis, sur quel livret? Le mien. Et je suis en train de l'orchestrer. Mais je vous le montrerai quand ce sera fini. Il a mené ses répétitions, vous auriez été stupéfaits, de la gentillesse, de la patience des interprètes et de sa certitude. Il voulait tel mouvement où il y avait telle faute. Et alors là, l'autorité d'un vieux routier de 40 ans. Très simple, très gentil, mais très ferme. Et en fait, le type du petit Nauma, est un cas assez incompréhensible. J'ai vu ça il y a quelques années quand j'ai eu comme élève Idylle Birette. Mmh. Elle est arrivée à Paris 7 ans et demi, ne lisant pas la musique, mais jouant le concerto en do majeur de Mozart comme elle ne jouera jamais mieux. Il est joué par un grand artiste qui est une petite fille de 7 ans et demi, ne lisant pas la musique.
Comment est-ce qu'elle pouvait simplement...
On lui jouait. On lui jouait une fois ou deux fois, et elle le savait.
Elle pouvait reproduire intégralement.
Oui, intégralement. Et chaque fois qu'elle a appris quelque chose par cœur et qu'elle s'est mise à le jouer, il n'y a jamais eu une erreur de disposition d'accord. Elle avait tout entendu. Naumov entend tout. Il entend réellement, il comprend immédiatement.
Vous n'avez pas peur pour un jeune compositeur de 13 ans ou de 14 ans?
Mais même si j'avais peur, ça ne changerait rien à ce qui est inéluctable. Il est né musicien.
Quels sont ces discours, Gaston? Il faut parler sur un autre ton. Quel langage envers une dame, mademoiselle?
C'était le 12e entretien avec Nadia Boulanger au micro de Bruno Mont-Saint-Jean, diffusé pour la première fois le 15 août 1978, avec une lecture de Benoît Allemann.